France Musique. France Musique, les grands entretiens. Judith Chen.
Je m'appelle Momo Kodama. Je suis née le 6 mars 1972 à Osaka, Japon, et je suis pianiste.
Bonjour Momo Kodama.
Bonjour.
Et merci beaucoup de nous recevoir chez vous. On est au cœur de Paris, de ce beau Paris aéré, classique. Nous sommes masqués mais déchaussés. Vous êtes née à Osaka, on l'entendait, mais vous êtes européenne depuis votre enfance, parisienne depuis votre adolescence. Tout ce chemin, nous allons évidemment le parcourir avec vous, main dans la main. Nous avons tout le temps pour ça. Malgré cette période difficile de pandémie, difficile pour tout le monde, difficile aussi évidemment pour les artistes, vous parvenez à jouer tout de même. C'était le cas il y a quelques jours à Radio France avec l'Orchestre National et puis également à Aix-en-Provence dans le cadre du prestigieux Festival de Pâques, des programmes qui le plus souvent mêlent le répertoire classique à des pages contemporaines. Vous aimez tisser ce fil dans le temps de l'histoire de la musique, un dialogue entre Orient et Occident aussi, toujours subtil, qui semble chercher, j'ai l'impression, la poésie, l'élégance, la lumière. Alors, nous sommes chez vous, je le disais. Et si vous deviez peut-être décrire ce lieu aux auditeurs, quels seraient vos mots ?
Je crois que c'est un peu mes origines qui sont ici, parce que c'est un espace très français, parisien, je crois, parce que c'est un immeuble haussmannien, mais avec des peintures et des calligraphies qui me sont très chères. Et des pianos.
Deux pianos.
Et c'est un peu le piano qui occupe quand même beaucoup l'espace. J'ai beaucoup de chance que je peux jouer ici le piano toute la journée parce que j'ai des voisins formidables. Et je passe très souvent beaucoup de temps ici à faire, bien sûr, pas seulement à travailler, mais à écouter, à partager, parce qu'il y a aussi cette grande table où nous sommes assises, où on se réunit très souvent entre amis et où on discute et où on mange, parce que j'aime beaucoup faire la cuisine. Très simple, mais voilà, partager, c'est quelque chose qui m'est très cher.
On entendait que vous êtes donc née en effet à Osaka, au Japon, mais je le disais, vous êtes européenne parce que vous avez finalement pas vécu ou presque pas vécu au Japon.
Je suis née au Japon, mais je suis venue en Allemagne quand j'avais 1 an. Donc je ne me souviens pas du tout de cette époque au Japon. Après, nous sommes rentrés une fois par an, parce qu'à ce moment-là, c'était encore plus difficile d'aller au Japon. Il fallait passer par Anchorage. Et ça prenait 24 heures porte à porte, donc une fois par an pour le Nouvel An, comme le Nouvel An c'est le plus important au Japon, nous rentrions au Japon. Mais ma famille, d'autant plus qu'on n'habitait pas au Japon, elle essayait de nous transmettre quand même des traditions. Donc il y avait les fêtes japonaises où elle cuisinait les petits plats qui s'étaient associés et... Ça n'empêchait pas qu'on fêtait Noël aussi, mais je pense qu'on a presque plus gardé cette tradition japonaise que les gens finalement qui vivent en ce moment.
Oui, vous êtes plus japonais que les japonais.
Oui, c'est ce que me disent aussi quand je parle. Je parle encore japonais assez classique parce que je ne connais pas les mots maintenant qui sont à la mode, entre guillemets. Et donc c'est quelque chose qui, même si je n'ai jamais vécu au Japon, je sens quand même quand j'y vais que ce sont mes racines. Et comme disait le cher maestro Seiji Ozawa, qui aussi a les racines au Japon, mais bien sûr qui était dans le monde entier, il m'avait dit c'est très bien d'avoir, il faut avoir des racines quelque part pour se sentir libre partout. Et je pense que vraiment c'est exactement le cas.
Thank you. racines sont peut-être dans cette langue, qui était la langue de votre foyer.
En fait, non, je parle pas très bien le japonais. Enfin, je parle bien, mais j'écris très mal le japonais parce que, comme j'ai jamais été dans une école japonaise, je l'ai appris à la maison, toute seule. Et j'ai essayé d'écrire des lettres à mes grands-parents pour écrire le kanji, les caractères chinois. Il y en a tellement que c'est vraiment difficile. Mais j'ai fait mes études en allemand. J'étais à l'école allemande comme j'ai fait une partie de mon enfance en Allemagne. Et ensuite en Suisse allemande. Et quand nous sommes venus à Paris, j'étais aussi dans une école allemande, dans un lycée allemand à Saint-Cloud. Donc toutes mes études générales, on dit, c'était en allemand.
Donc en fait, la première langue, enfin votre langue maternelle, vous diriez, Momokodama, c'est davantage l'allemand que le japonais.
Oui, je maîtrise le plus l'allemand et je lis le plus facilement en allemand, j'écris le plus facilement en allemand, oui.
Et dans vos rêves, vous parlez quelle langue ?
Ça, c'est une question que je me suis beaucoup posée. Je pense que ça dépend un peu qui apparaît dans mes rêves. Je crois que ça change aussi peut-être la langue que j'ai utilisée le plus dans la journée, qui apparaît aussi dans mes rêves.
Vous disiez que votre famille donc quitte Osaka quand vous avez un an. Vous avez une sœur aînée qui, elle, a vécu donc davantage que vous.
Oui, elle a plus de base en japonais que moi. Nous n'avons jamais parlé une autre langue que le japonais. On parlait vraiment que le japonais, ce qui est assez rare, parce que j'entends les enfants qui ont grandi ailleurs qu'au Japon, qui commencent à parler en français ou en allemand entre eux. Mais nous, c'était toujours le japonais de Osaka, qui est avec un accent un peu plus mélodieux. D'ailleurs, c'est vraiment un dialecte, comme peut-être en français, je ne sais pas, de Perpignan ou de Toulouse ou de régions qui aussi sont très mélodiques. Et je pensais que c'était ça, en fait, le japonais pour moi. Et après, j'ai appris qu'il y avait aussi le langage qu'on apprend à l'école, comme ça, très traditionnel. Mais le japonais, oui, ça c'est dans la famille, avec ma mère aussi, avec mon père, c'était toujours le japonais.
Oui, donc à l'intérieur de la cellule familiale, la langue était le japonais.
Oui.
Vos parents, donc, qui sont nés dans les années 40, eux, d'où viennent-ils avec ce Japon aussi qui culturellement oscille entre l'attrait aussi de l'Occident et puis des périodes peut-être plus protectionnistes sur leurs traditions? La période de la Seconde Guerre, elle exacerbe aussi ces choses-là. Vos parents, eux, comment est-ce qu'ils ont grandi et d'où venaient-ils? Dans quel genre de famille?
Ils sont tous les deux de la région Osaka, donc ma mère est de Kyoto. Mais elle était toujours assez en avance sur son temps parce qu'elle était professeure de piano. Elle avait beaucoup d'élèves au piano. Elle était très indépendante comme femme aussi. Elle passait son permis comme ça toute seule, sans le dire à sa mère. Et elle avait une grande indépendance. Et mon père qui est dans une banque, qui avait beaucoup de filiales en Europe. Et c'est comme ça qu'on est arrivé en Allemagne. Et que lui, il a beaucoup déménagé, habité dans beaucoup de pays dans l'Europe. Il était dans la finance, mais il adorait la musique et la culture. Et il nous emmenait aussi voir les musées, il nous emmenait à voir la nature. Et lui-même, d'ailleurs, quand il a pris la retraite, comme lui, il connaissait que Hambourg et Paris et Genève et Düsseldorf. Alors, il a tout de suite profité pour aller en Grèce, en Turquie, voir les belles choses de l'histoire qu'il ne pouvait pas faire quand il travaillait. Et donc, je crois que j'ai eu beaucoup de chance d'avoir grandi dans une famille assez ouverte d'esprit, ouverte aux autres cultures. Et bien sûr, ils gardaient beaucoup la tradition japonaise. Et même la mère de ma mère, ma grand-mère aussi, elle était professeure à l'université. Donc, à cette époque-là, comme femme, c'était assez rare. Je crois que tout en gardant nos racines et essayant de transmettre la tradition, en même temps, très... Comment dire, ils investissent beaucoup à l'éducation de leurs enfants.
France Musique, les grands entretiens de Momo Kodama.
Quand vous arrivez en Allemagne, c'est à Hambourg alors que vous atterrissez ?
C'est à Düsseldorf.
À Düsseldorf.
Oui, où il y avait beaucoup de Japonais. D'ailleurs, ma sœur, d'abord, était allée à l'école japonaise à Düsseldorf. Et il y avait une conférence d'une écrivaine japonaise qui a dit « Mais qu'est-ce que vous faites tous ici, dans l'Allemagne, où il y a beaucoup de traditions, vous restez dans cette école japonaise ? » Je pense qu'il faut juste fermer cette école japonaise et que tous les enfants rentrent dans une école allemande pour un peu aussi profiter de lieux où vous vivez. Bien sûr, elle était devenue très impopulaire parmi les professeurs de cette école, mais ma mère, tout de suite, elle a pensé que cette écrivaine a raison. Donc, elle a pris ma sœur, elle a désinscrit de l'école japonaise, elle l'a mis dans une école allemande, comme les enfants allemands. Et oui, elle était aussi très réactive.
Oui, une femme résolument moderne, on a l'impression, indépendante et moderne. Oui. Et vos parents, quand ils arrivent à Düsseldorf, ils parlent l'anglais, l'allemand déjà, ou pas du tout? Tout va se faire, vous allez tous apprendre en même temps?
Oui, on va tous apprendre. Ma mère ne parlait pas du tout, donc elle a appris. Mon père aussi, il était obligé par son travail aussi d'apprendre. Donc, à chaque fois qu'on a déménagé, parce qu'on a quand même pas mal déménagé par le travail à chaque fois, mais c'était 3 semaines avant qu'on savait qu'on allait déménager. Donc, après, c'était la recherche de maison, le déménagement. Et aussi, ce qui était un peu triste, c'est de dire au revoir aux amis. Mais si on est entouré par les personnes qui nous sont chères, si on tient quelques objets aussi, peut-être, ou s'il y a un piano, on peut se faire son monde partout, dans n'importe quelle chambre d'hôtel, dans n'importe quel endroit. Je crois que c'était un bon exercice.
Oui, ça vous a préparé avec la vie que vous menez aujourd'hui, une vie d'artiste qui évidemment est une vie de nomade aussi, beaucoup, sans doute. Mais quand on est dans cette période d'enfance, de déménager souvent, c'est quand même pas simple.
Oui, et puis on est arrivé en Suisse, c'était à Zug, après Düsseldorf, et c'était un... Je crois que pour l'économie, c'était un... On dit paradis, mais... On était le seul asiatique, je crois, presque, dans cette ville. Maintenant, bien sûr, ça a beaucoup changé, mais on était vu comme quelque chose d'extraterrestre parmi les autres enfants, ce qui était assez drôle, mais aussi qui avait des côtés un peu difficiles.
Votre mère, quand elle arrive en Allemagne, elle continue d'enseigner, elle trouve d'autres élèves.
Elle a tout quitté, elle a tout abandonné parce qu'elle était vraiment venue en tant que femme de mon père. Ce qui était aussi pas facile, je pense, parce que c'était une femme qui a toujours travaillé, elle était très active, avait son monde. Mais je pense qu'avant, c'était notre grand-mère qui éduquait beaucoup ma sœur aussi. Mais maintenant, c'était ma mère et... Je pense que c'était pas toujours facile non plus parce que les réunions de femmes deux, prendre le thé. Après, elle prenait beaucoup de plaisir, mais je pense qu'au début, c'était pas facile.
Et elle avait tout le loisir donc de s'occuper de ses deux filles. Vous avez donc 5 ans d'écart avec Marie.
Oui, c'est ça.
Elle était votre premier professeur alors? En termes de piano.
Non, elle était très intelligente de pas être notre première professeure. Elle nous a envoyé moi, elle m'a envoyé chez une élève en pédagogie de piano. Donc, j'étais un peu son cobaye. Elle m'a fait faire des méthodes très intéressantes d'ailleurs, parce que on commençait pas par lire les notes, mais on commençait vraiment par le contact physique avec le clavier. Donc, bien sûr, à 3 ans, on est encore très petite et elle nous faisait marcher les doigts sur le clavier, comme une personne qui marche avec les deux jambes, comme ça, sur le. Ou alors elle faisait des staccato en disant que c'est une grenouille, alors elle faisait juste avec un doigt pour faire des notes très courtes. Et comme ça, on entrait vraiment par l'imagination. Devenir familier avec le clavier, avec le son que ça peut produire et les expressions que ça pouvait exprimer. Et on faisait aussi des exercices, comme on disait, c'est des grandes cloches, alors on bougeait notre corps comme ça, comme des grandes cloches pour devenir souple à l'épaule. Et j'adorais ces cours. Dès qu'un cours était fini, je voulais que la semaine passe pour que la semaine suivante arrive. Bon, après, bien sûr, il y a des choses plus sérieuses. J'ai appris le solfège, j'ai appris les notes, j'ai appris tout. Et je voulais jouer comme ma sœur, parce qu'elle jouait toujours les choses plus difficiles, les choses très beaux. Et elle était toujours comme un but, oui, que je voulais atteindre.
Est-ce que votre attirance pour le piano Momo Kodama, elle est l'attirance pour une musique et puis le piano serait le vecteur de cette musique, ou est-ce que votre attirance elle est aussi pour cet instrument qui était déjà là et vous avez aussi véritablement une attirance aussi pour l'objet, si je puis dire?
Oui, ça c'est venu plus tard, mais au début c'était vraiment comme, en fait je me souviens pas du jour où j'ai vraiment commencé le piano, parce que c'était comme manger ou comme brosser les dents ou comme c'était quelque chose de très naturel, je crois. Et comme c'était toujours dans la maison, ma sœur jouait, ma mère aussi. Entre-temps, elle avait repris les cours, elle a repris à jouer. Comme voilà, elle avait du temps. Alors je me souviens, elle jouait les études révolutionnaires, elle jouait des sonates de Beethoven. Elle adorait les bars. Alors je vois encore les partitions de clavier bien tempérées, je vois encore ses doigtés, parce que j'avais, voilà. Mais j'aimais vraiment passer beaucoup de temps avec le piano, ça j'ai jamais. Après, c'était la relation avec le piano devient plus conflictuelle ou moins simple comme ça, parce que bien sûr, on se pose beaucoup de questions, et le plus qu'on pose de questions, les choses deviennent plus compliquées. Mais j'adorais écouter le piano aussi, parce que mes parents étaient abonnés à la Tonhalle à Düsseldorf, alors ils m'emmenaient écouter les concerts dès que j'avais 4-5 ans. Et je me souviens, je suis allée écouter Barenboim, par exemple, on est allé écouter. Je crois qu'il adorait les enfants, alors il était très très gentil après, se mettant comme ça à mon hauteur pour me parler. Martha Gerich, pareil, elle a dit « Ah, mais vous jouez du piano, comme ça », elle nous a fait une dédicace d'un disque que j'ai toujours ici. Même on allait écouter le ballet, je me souviens, aller écouter la Tosca, étant petit, c'était peut-être des histoires pas très pour les enfants, mais j'adorais ça. Je me souviens Montserrat Caballé, qui était là avec Carreras. Mais j'ai jamais voulu faire un autre instrument que le piano.
Vous avez des souvenirs aussi, donc j'imagine, de musique à la maison. Vous parliez de votre mère qui jouait, de votre sœur. Et est-ce qu'il y a eu aussi assez vite des échanges, de partager le clavier ensemble, vous et votre mère, vous et votre sœur?
Non, on n'a jamais. On a fait un tout petit quatre mains de forêt d'Oli quand on avait 6 et 11 ans, quelque chose comme ça. Mais à part ça, non, on faisait chacun ça de notre côté. C'est plus cette attitude où ma mère était très passionnée pour travailler qui m'a beaucoup marquée, plus que des choses qu'elle me disait ou qu'elle me partageait avec ma sœur. Pareil, c'est vrai que là, je n'y ai jamais pensé, mais maintenant que vous me dites non, c'était jamais cette partage de la musique. Oui, on partageait d'autres choses, mais...
Ouais, c'est quelque chose de très intime, en fait.
Oui, c'est ça. Et peut-être que c'était bien, parce que comme ça, ma sœur et moi, nous sommes très différentes de caractère, de notre façon de jouer aussi. Même si, quand on joue ensemble, ça marche miraculeusement bien. Mais c'est peut-être aussi pour ça qu'on a notre personnalité propre.
Parce que ça, c'est aussi un grand défi d'avoir le même instrument. Des fratries musiciennes, il y en a évidemment, de partager le même instrument. Je pense aux sœurs que vous connaissez bien, les sœurs Nemtanou. Vous avez enregistré un disque avec elles, sont toutes les deux violonistes. Oui. Sarah était à votre micro il n'y a pas si longtemps que ça, d'expliquer comment est-ce qu'on se distingue. Et ça, c'est le rôle des parents est assez fondamental.
Oui, je pense que pour ma sœur, c'était plus difficile parce que comme elle est l'aînée, alors elle était obligée de tracer le chemin parce que tout était nouveau pour trouver les professeurs, les bons professeurs, même pour les choses administratives, s'inscrire dans un conservatoire, trouver les bons stages. Et c'est vrai qu'au début, je crois que j'avais vraiment beaucoup d'avantages, que je passais un peu le chemin que ma sœur avait tracé au début. Et je pense aussi qu'il y avait peut-être plus de pression pour ma sœur comme c'était l'aînée. Et je crois que ma mère a travaillé plus avec ma sœur qu'avec moi, qu'elle laissait finalement assez plus libre peut-être. Je crois que même pour moi, elle n'était pas sûre si je voulais devenir pianiste, parce que je faisais aussi la danse classique, beaucoup, jusqu'à l'âge de 10 ans, et ça m'a passionnée. Elle m'avait dit, à l'âge de 10 ans, tu peux faire le piano, la danse, comme tu veux, tu peux aussi rien faire de tout, de toutes les deux choses. Et bien sûr, après, c'est devenu aussi... Je veux dire, je ne peux pas toujours suivre ma sœur parce qu'on fait nos vies. Mais oui, je crois qu'au début, au moins pour moi, c'était plus facile. Oui.
Et c'est sur cet extrait du concerto pour deux pianos de Martinou par les sœurs Kodama et l'Orchestre Philharmonique de Marseille, dirigé par Laurence Foster, que se referme le premier épisode des Grands Entretiens avec Momo Kodama. Réalisation Gilles Blanchard, prise de son Frédéric Kérou, mixage Emmanuel Morse-Duncan, attaché de production Flora Sternadel. Demain, à la même heure, deuxième épisode de ce portrait. Les Grands Entretiens sont disponibles en podcast sur francemusique.fr.
À réécouter sur francemusique.fr.